Chapitre 3. Au VIe siècle, le franc, venu de Lutèce, qui se réduisait alors à la cité et à quelques édifices épars sur la rive gauche, le gallo-romain venu de Lyon ou d'Arles, le goth venu de Vérone, le latin venu de Rome même, qui, saccagé par 4 invasions, dépouillé de ses plus précieuses œuvres d'art par les empereurs de Byzance, était déjà presque en ruine, et où l'on faisait communément de la chaux avec des statues mutilées et les ornements d'architecture, tout étranger enfin qui arrivait à Constantinople était frappé d'étonnement et d'admiration. Construite dans le plus beau site du monde, baignée de 3 côtés par la mer, s'élevant comme un lys de marbre sur une nappe de lapis-lazuli, au milieu d'un horizon de prairies, de fleurs, d'arbres fruitiers et de collines boisées, Constantinople dépassait en superficie la Rome d'Auguste. Les remparts, à assises de marbre, régnaient sur un périmètre de plus de 4 lieues, enserrant dans leur enceinte les 7 collines où s'étendaient les 13 quartiers de la ville. Chacune des poternes était flanquée de colonnes. Les grandes portes avaient les proportions et la magnificence d'un arc de triomphe. Sur l'autre rive de la Corne d'Or, on apercevait le 14e quartier de Constantinople, les sigues ou figuiers, aujourd'hui Galata. Une voie triomphale et 400 rues s'ouvraient dans la ville où s'élevait la grande basilique érigée par Constantin à la Sainte Sagesse, dont on a fait Sainte Sophie, et reconstruite après un incendie par Théodose II, les palais impériaux, les églises de Saint-Irène, de Jean-Soudiès, de Saint-Stéphane, de Saint-Aquiline et 20 autres encore, le grand hippodrome, plusieurs amphithéâtres, 50 portiques, 8 grands thermes publics, 150 bains particuliers, des fontaines monumentales, 5 greniers publics, un arsenal, de nombreux édifices pour le Sénat, les cours de justice, le trésor et les principales écoles, la bibliothèque contenant 120 000 manuscrits, enfin 4 500 palais et maisons dignes de remarque. 8 aqueducs et plusieurs sources, dont la citerne de Polyxène, d'une contenance de 325 000 m3, donnait de l'eau à profusion, et de vastes égouts souterrains, arrosés par le gros ruisseau du Lycus, desservaient toute la ville et allaient se décharger dans la mer. L'Augustéon et le Forum de Constantin étaient les deux principales places de Constantinople. Entouré de portiques diptères, l'Augustéon affectait la forme d'un rectangle. Le Milliaire d'Or, grande arcade décorée de statues où aboutissaient toutes les routes de l'Empire, en occupait le centre. Un double hémicycle de portiques de marbre formait le Forum de Constantin. Au milieu jaillissait une fontaine surmontée d'un groupe de bronze de proportions colossales représentant Daniel et les lions. Près de la fontaine s'élevait une colonne de porphyre de 90 pieds de haut, non compris la base ni le chapiteau, où reposait une belle statue antique d'Apollon qu'on avait baptisée du nom de Constantin. Comme le Bruchium des Ptolémées, le Palatin des Césars, le Vatican des Papes, le Sérail des Sultans, le Kremlin des Tsars et la Ville Rouge des Empereurs de la Chine, le Palais Impérial contenait, dans sa vaste enceinte fortifiée, qui avait près de 3000 mètres de tour, une multitude d'édifices. Palais, églises, chapelles, bains, stades, portiques, galeries, casernes pour les gardes, demeures princières pour les grands officiers de la couronne. Des cours dallées de marbre, des parterres de fleurs, des bois de cyprès et de citronniers, des terrasses surplombant la mer, de magnifiques bassins, des cours d'eau artificiels, de larges escaliers découverts séparaient ou reliaient les diverses parties du palais. Au sud et à l'est, les jardins descendaient en pente douce jusqu'à la Propontide et au Bosphore. Au nord, le palais de la Daphné donnait sur les jardins, ainsi que le palais sacré, résidence des empereurs, où se trouvait la salle octogone du trône, nommée le Chrysotriclinium. Au nord aussi s'élevait le palais de la Chalcée, qui développait sa façade extérieure sur la place de l'Augustéon, vis-à-vis de Sainte-Sophie. À l'est, d'autres constructions se projetaient, comme un bastion avancé, entre les thermes du Zeuxippe et l'hippodrome. C'était l'église de Saint-Stéphanos et le Katisma, ou palais de la tribune. Le Katisma se composait d'un atrium, d'un triclinium, d'un salon de repos, et enfin de la tribune qui dominait l'hippodrome. L'autocrator assistait aux courses et se montrait au peuple sans sortir de l'enceinte de son palais. L'architecte avait disposé la tribune en vue de la commodité de l'empereur et aussi de sa sécurité. À l'hippodrome, le peuple avait toute liberté de parole. Il prenait parfois toute liberté d'action. Une émeute, un coup de main, était à redouter. Mais la tribune impériale pouvait défier les assauts. La terrasse du Catisma s'élevait de plus de 10 mètres au-dessus de l'arène, et le pi, sorte de terre-plein en forme de pi, qui se projetait en avant de la tribune, auquel n'accédait aucun escalier et où se tenaient les gardes, formait une première ligne de défense. Si l'on jetait des pierres, l'empereur se retirait dans le triclinium, dont les portes de bronze étaient incontinent fermées, et du Catisma, il rentrait sans courir aucun risque dans le palais sacré. Pour l'impératrice, elle ne paraissait pas dans la loge impériale. L'étiquette de la cour, qui déjà se modulait sur les costumes de l'Orient, ne permettait pas que l'épouse du souverain se montrât au peuple dans cette circonstance profane. C'étaient les catéchuménies de l'église de Saint-Stéphanos qui avaient vu sur la reine que l'Augusta assistait aux courses de l'hippodrome. Plus vaste que le Colisée, l'hippodrome de Constantinople était décoré avec plus de magnificence. Présentant la figure d'un fer à cheval très allongé, il se terminait à sa base par le catisma et divers bâtiments qui contenaient, au-dessus des écuries, les loges du patriarche, des généraux, des personnages de la cour. Sur tout le reste de la circonférence se développaient 40 rangs de gradins de marbre, au-dessus desquels régnait un vaste promenoir orné de portiques et peuplé de statues. L'une d'elles, véritable colosse, avait le pouce gros comme un homme. La petite rivière de l'Éripe, endiguée dans un large fossé, coulait tout autour de l'arène. Ce cours d'eau servait à deux fins. Il protégeait les spectateurs contre les bonds des bêtes sauvages que l'on montrait parfois dans le cirque, et il empêchait l'arène d'être envahie par les spectateurs à l'issue d'une course de chars. Une longue et étroite plateforme, nommée la spina, l'épine, s'élevait dans l'axe de l'hippodrome, divisant l'arène en une double piste. Sur la spina se dressait l'obélisque apporté de la Haute Égypte par Théodose et la colonne d'airain formée de 3 serpents enlacés. Cette colonne, qui portait naguère à son sommet le trépied d'or d'Apollon, avait été érigée à Delphes par les Grecs alliés en commémoration de la défaite des Perses. C'est avec une sainte émotion que nous nous sommes approchés, dans l'Atmeïdan de Constantinople, de la colonne serpentine, cet antique monument qui rappelle la plus utile victoire qu'ait jamais remportée la civilisation sur la barbarie et qui marque la date de l'avènement du génie grec. Parmi les autres merveilles de Byzance, il y avait les thermes de Zeuxippe. Christodore de Coptos a consacré un poème entier à la seule description des statues prises à Rome, à Athènes, à Olympie, à Corinthe, en Asie mineure, qu'on y avait réunies. Toute la Grèce antique revivait là, dans les marbres et dans les bronzes des grands maîtres. La religion, avec Apollon, Athénée, Zeus et la radieuse théorie des Olympiens. La légende, avec Hélène, Achille, Andromaque, Calcas, Amphiaraos. La politique et la guerre, avec Thémistocle, Périclès, Alcibiade, Alexandre. L'éloquence et l'histoire, avec Échine, Démosthène, Hérodote, Thucydide. La poésie et la philosophie avec Homère, Pindare, Pythagore, Platon et Aristote. Constantinople a lié, au brillant d'une ville neuve, les grands souvenirs des antiques cités. Les mosaïques, les émaux, les ivoires, les plaques d'or, les porphyres, les lazulites, les gemmes, les pierres précieuses qui formaient les blouissantes décorations des monuments byzantins y servaient de cadre au plus beau chef-d'œuvre de l'art grec. D'autres contrastes frappaient le regard quand on détournait les yeux des édifices et des statues pour les porter sur la foule qui emplissait les rues, sénateurs drapés dans la toge antique et ducs des confins militaires portant l'ample chlamyde et la tunique de soie brochée de figure, cataphractaires tout couverts de mailles de fer et scolaires de la garde cuirassés d'or, clarissimes, en lacernes à franges et à médaillons brodés et artisans ayant encore, comme au temps des républiques d'Athènes et de Rome, la tunique brune sans manches. Aussi peuplée que l'avait été Rome, Constantinople avait, outre son immense population indigène, une population flottante considérable. le monde entier affluait à Byzance. De toutes les parties de l'Empire, de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique, accouraient les marins, les marchands, les mercenaires, les manœuvres, les solliciteurs, les plaideurs, les curieux, les jeunes gens en quête d'engagement militaire. On voyait tous les costumes et tous les types ethniques. La longue candise du Parthe, la casaque de peau de rat du Hérul, le sagom rayé du Goth, le burnous de poil de chameau du Numide, la chevelure flottante du Sicambre, la barbe calamistrée du Perse, la face blonde du Chérusque, le masque de bronze du Mauritanien.